Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission de radio proposée par Tech News en ce lundi 17 avril. Nous sommes en direct du lycée Émile Pétavin et tout au long de cette émission, nos journalistes vont nous donner de la primeur de leur exposé du grand oral du baccalauréat. Ce soir, 48FM aura un air de France Culture, accrochez-vous à vos postes pour être sûr de ne pas perdre le fil. Pour cette première partie d'émission, Lucille va nous expliquer comment est gérée la crise climatique en fonction des richesses des pays et Camille nous parlera ensuite de l'ensemble de saxophones de l'école de musique. Je laisse la parole à Lucille et je vous retrouve juste après.
Bonsoir Sacha, bonsoir tout le monde. Depuis plusieurs décennies, la population mondiale se retrouve de plus en plus souvent exposée à des événements climatiques dont l'ampleur s'est aggravée avec le temps. On constate aussi un véritable écart de traitement de la crise climatique selon les pays. Et si on se base sur les mesures mises en place et le traitement des dégâts post-catastrophe, on voit apparaître des inégalités entre les États. Les pays très peu responsables du réchauffement de la planète ont du mal à se protéger avant l'arrivée d'une catastrophe et à réparer des dégâts causés par celle-ci, alors que les pays à l'économie développée qui polluent beaucoup et depuis bien plus longtemps sont pour l'instant moins touchés. Ces inégalités dans la capacité à prévenir et à s'adapter aux changements climatiques et à leurs conséquences reflètent les liens étroits entre ressources économiques et forces d'action en faveur du climat. Comment expliquer que la question écologique puisse dépendre autant de l'économie d'un pays? En effet, le réchauffement climatique constitue une menace pour la planète, et face à cet enjeu, le modèle économique mondial apparaît comme un acteur à part entière de la crise. C'est ainsi que se tissent des liens étroits entre gestion de la crise climatique et ressources économiques. Si les fluctuations climatiques sont des événements naturels déjà observés auparavant, le réchauffement de l'atmosphère en cours depuis la révolution industrielle, donc c'est-à-dire 18e siècle, est principalement dû à l'activité humaine. La concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère n'a jamais été aussi importante depuis 400 000 ans et continue de s'accroître avec le temps. Le réchauffement climatique, comme on l'appelle aujourd'hui, est, comme je le disais précédemment, intrinsèquement lié à l'activité humaine. Nous avons fondé notre système de croissance sur la création de richesses matérielles majoritairement issues de la mobilisation d'énergies fossiles. L'exploitation démesurée de telles ressources mène donc à une déstabilisation des gaz dans l'atmosphère et cause le réchauffement généralisé de celle-ci. De nos jours, le réchauffement climatique se manifeste par ce qu'on appelle des catastrophes climatiques. Sécheresses, incendies géants ou modifications de la température des mers et océans sont des dangers majeurs pour l'humanité ainsi que la biodiversité. Cependant, même si la décroissance s'apparente à une solution à la surproduction et à l'utilisation à outrance des énergies fossiles qu'elle nécessite, celle-ci se heurte à un système bien plus puissant, car dirigé par les élites mondiales, le capitalisme. Le capitalisme, sous sa définition marxiste, est un système politique, économique et social dont le principe fondamental est la recherche systématique de plus-value, obtenue grâce à l'exploitation des travailleurs par les propriétaires des moyens de production ainsi que de distribution. Il s'est imposé comme système économique mondial à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe et dans le reste du monde à la fin de la Guerre froide. Si j'aborde le capitalisme lorsque je parle de crise climatique et d'écologie, c'est parce que même s'ils s'opposent, ces deux sujets sont en fait profondément liés. La surproduction et la surconsommation qu'entraîne le capitalisme dans nos sociétés impactent dangereusement et durablement nos environnements ainsi que le climat. La libération de tonnes de gaz à effet de serre engendrées par la production d'objets quelconques comme le plastique, de textiles ou encore par les déplacements en avion a de graves conséquences. C'est un vaste problème de pollution de l'atmosphère, des océans et de la nature qui dérègle l'entièreté du climat. La menace que représente le réchauffement climatique donne lieu à des prises de conscience sur la condition à venir de l'homme si rien n'est fait pour stopper l'engrenage capitaliste de société. C'est ainsi que la question écologique et climatique est de plus en plus souvent abordée lors de sommets internationaux et met en lumière un fait indéniable. L'inégale répartition des richesses dans le monde empêche une lutte efficace contre le changement climatique. La lutte contre le réchauffement climatique n'est pas perçue de la même manière selon les pays. Et il faut le dire, les plus aisés l'abordent comme une question économique. Une chronique de l'ONU parle d'un débat économique engagé sur les coûts et les bénéfices des politiques visant à atténuer le changement climatique. Si, dans les pays les plus impactés par le réchauffement climatique, la politique écologique est primordiale, les pays les plus riches s'octroient la possibilité d'y voir et d'y chercher des bénéfices économiques. Comme l'ONU le dit elle-même, une institution à elle seule ne suffira pas à répondre aux besoins bien grandissants des pays en développement le plus pauvre. Le fait étant, la gestion de la crise climatique passe obligatoirement par le déblocage de fonds monétaires importants dont le montant augmente avec l'aggravation de la crise. Les pays les moins développés, en plus d'être impactés par les conséquences des émissions de CO2 dont ils ne sont pas les auteurs, font face à l'indifférence des plus grandes nations. Pour résumer l'engagement des pays développés dans l'action climatique, on peut en fait se contenter de prendre une partie de la définition du capitalisme, recherche de profit. Leur inaction face à la famine que leurs activités engendrent par l'accentuation du réchauffement climatique sont la preuve d'une insensibilité à un désastre dont ils seront bientôt les victimes, car l'aggravation des catastrophes climatiques va un jour être supérieure à leur capacité de construire des infrastructures efficaces contre les catastrophes naturelles. La question économique est donc intrinsèquement liée à la crise climatique, car c'est l'inégale répartition des richesses dans le monde qui ralentit la lutte pour le climat. Le système économique mondial n'aide pas non plus, en promouvant toujours autant la surconsommation et aucune mesure de maîtrise de la production n'est observée dans les firmes les plus importantes. La lutte contre le réchauffement climatique est elle aussi une question d'argent, car des infrastructures et des mesures adaptées ont un coût que les pays premièrement touchés ne peuvent pas débourser. Et il ne faut pas oublier que les fonds nécessaires sont parfois bloqués par les pays qui refusent de perdre la part de leurs profits dans des actions en faveur du climat. Aujourd'hui, il est certain que la priorisation des profits à l'avenir de l'humanité est un frein conséquent à la lutte contre le changement climatique.
Merci Lucille pour ces nouvelles peu rassurantes. Camille, on compte sur toi pour nous importer un peu plus de distraction.
On enchaîne de suite avec l'interview du quintet de saxophone, composé, je vous le rappelle, de Flavien Camarzine, Aïl Torisson, Alain Desvoix, Marie-France Vergély et moi-même. Alors, première question, qu'est-ce que vous apporte de faire de la musique dans votre quotidien ?
La musique, c'est un moment de plaisir. Ça me permet de prendre du temps pour moi et ça stimule ma créativité. Et aujourd'hui, elle fait partie de mon quotidien et j'arriverais pas à imaginer comment je vivrais si j'en faisais pas.
Pensez-vous que l'art est nécessaire dans le monde où nous vivons et pourquoi ?
Donc à mon avis, tout type d'art est indispensable pour les êtres humains car ils apportent quelque chose à tout le monde. En partant de la musique jusqu'à la peinture par exemple, n'importe quel art peut transmettre des émotions uniques et bouleversantes à nous tous. Certains plus que d'autres et cela dépendra de la personne. Mais au fond, nous sommes tous touchés par ces travaux à but artistique. Mais je pense que toute personne dans ce monde mérite de trouver une passion qui touche le milieu artistique.
Ensuite, pourquoi faites-vous de la musique ?
Eh bien, moi, je fais de la musique pour être heureuse, oui, pour essayer d'atteindre le bonheur. Comme quand on regarde un tableau, quand on regarde un film, on est en contact avec la beauté. Donc, c'est quelque chose qui nous transcendent, qui nous font dépasser la banalité de notre vie ou la quotidienneté de notre vie. Et là, par le travail qu'on fournit, parce que c'est quand même un travail, avant d'arriver à ce bonheur, il faut travailler. Il faut se concentrer aussi. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais de la musique. Cette nécessité de concentration, finalement pour aller à l'opposé de la dispersion qu'impose la vie quotidienne et particulièrement le monde actuel, mais là il faut se resserrer autour d'une partition ou autour d'un groupe si on joue en formation. Donc l'idée de concentrer soi-même. Se concentrer, concentrer ses idées, concentrer sa volonté, concentrer sa recherche sur un objet qui va être entendu par nous, mais aussi par les autres, qui va être partagé. Et ça, c'est primordial pour moi. Bonheur, beauté, concentration, partage, voilà, ce sont des mots que j'associerai à la musique.
J'écoute de la musique et j'essaye d'en jouer tous les jours. Elle fait pleinement partie de mon quotidien et je ne saurais pas m'en détacher actuellement. À chaque fois que je consomme cet art, mes émotions se remettent à zéro. C'est-à-dire que je peux être très énervé en commençant à jouer, mais totalement extérioriser cette énergie et ressortir d'une répétition totalement joyeux. Ou contrairement, si je n'arrive pas à jouer, je peux ressortir mécontent. Au fond, cela m'aura apporté quelque chose et je n'en ressortirai que meilleur. Au final, la musique m'apporte donc plein de jolies émotions et je serai toujours reconnaissant de cet art.
Quels sont pour vous les buts de la musique ?
Pour moi, le but de la musique, c'est de transmettre des émotions. C'est un moyen de communication compris par tout le monde qui transcende même les langues. Et j'aimerais utiliser la musique pour toucher et faire rêver le plus de monde possible.
Pensez-vous que vos émotions sont influencées en jouant ?
Oui, bien sûr, quand on joue, on donne tout ce qu'on a pour interpréter les notes du compositeur. On plonge dans la partition, et il est pas rare que je me fasse moi-même influencer par ce que je joue. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui me fait aimer la musique.
Et pour finir, la musique est-elle une philosophie ?
J'ai envie de répondre oui, parce qu'il me semble qu'elle permet justement d'utiliser ce prisme qu'est l'art pour envisager le monde, avoir une lecture de ce qui nous entoure, autant des événements que des êtres, et donc d'utiliser la démarche artistique, en l'occurrence le saxophone pour ce qui nous concerne, pour améliorer la rencontre, l'écoute, j'ai envie de dire l'altérité, pour faire en sorte que, justement, il y ait un climat de confiance qui s'installe, et c'est bien dans ce climat que peuvent s'exprimer les différents gestes artistiques. L'art, donc, pour moi, est une philosophie de vie, oui, évidemment, il a des objectifs qui me semblent, en tous les cas, essentiels, tels que, justement, l'empathie, le fait de pouvoir communiquer avec les autres personnes, avec tout ce qui nous entoure, et faire en sorte que les esthétiques, aussi différentes soient-elles, permettent d'enrichir le quotidien de chacun et peut-être d'apporter, pour les gens qui n'y seraient pas forcément naturellement confrontés, une possibilité d'accès à cette dimension qui me semble tout à fait valorisante pour la lecture qu'on peut avoir du monde. Voilà, donc dans ces quelques mots, j'espère avoir répondu à la question de Camille et donc de réaffirmer au travers de tout ça la nécessité, vraiment la vraie nécessité de l'art, de l'expression artistique comme nourriture principale qui permet peut-être d'améliorer le rapport humain vis-à-vis du monde dans lequel il est.
Voilà, c'est la fin de l'interview. TechNews vous remercie encore pour votre participation à l'émission.
Merci Camille pour cette interview et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct du lycée Émile Pétavin. Nous allons désormais écouter la chronique de Laura sur le streaming. Et Julien nous expliquera ensuite pourquoi les abeilles des Cévennes disparaissent. Quant à moi, je vous retrouve après la pause poétique, un ensemble d'enregistrements de poèmes faits par les élèves d'HLP, de seconde générale et technologique, en l'occasion du printemps des poètes qui a eu lieu la semaine dernière. Laura, nous t'écoutons.
Merci Sacha et bonsoir à tous. Je pense qu'on peut dire qu'on est tous familiers avec les plateformes de streaming telles que Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Ces services de streaming ont connu une croissance spectaculaire ces dernières années et le Covid n'a pas aidé. Les offres proposées par ces plateformes ont rapidement séduit un public de plus en plus large qui a peu à peu délaissé les cinémas et les théâtres qui, de plus, avec le confinement, n'ont pas pu exercer. On pourrait donc être tenté de penser que l'essor des services de streaming contribue à la désaffectation des cinémas et théâtres. Désaffection. Nous allons donc aborder les effets du streaming vidéo sur la fréquentation des cinémas et théâtres. En effet, l'essor des services de streaming a été phénoménal ces dernières années, puisqu'en 20 ans, entre 1999 et 2017, Netflix est passé de 110 000 abonnés à environ 104 millions à l'international, ces plateformes proposant un large choix de contenus allant des séries aux films en passant par des documentaires et des programmes pour enfants, un grand public est alors touché par leurs services. De plus, la disponibilité de ces contenus sur différents supports tels que les téléphones mobiles, les tablettes ou les télévisions a favorisé l'accessibilité pour un public de plus en plus large. Ainsi, les services de streaming ont rencontré un grand succès auprès du public et ont rapidement séduit les amateurs de films et de séries. Aussi, le succès des services de streaming a eu un impact important sur la fréquentation des cinémas et des théâtres. Par exemple, Anthony et Joe Russo, réalisateurs d'Avengers Endgame, déclarent « C'est devenu un marché vraiment difficile. Pour faire un petit film et porté par ses personnages, même pour nous, alors que nous avons fait Endgame. » Il y a 2 ans encore, la situation du marché n'était pas aussi tendue. Il semble que les spectateurs préfèrent souvent regarder un film ou une série confortablement installée chez eux, plutôt que de se déplacer jusqu'à une salle de cinéma ou de théâtre. Cette concurrence accrue a donc conduit à une diminution de la fréquentation des cinémas et théâtres. De plus,
La montée en puissance des services de streaming a également eu un impact économique important sur les cinémas et les théâtres. En effet, les revenus générés par la vente de billets ont diminué avec la concurrence accrue des plateformes de streaming. Les exploitants de salles doivent donc faire face à une baisse de leurs revenus et à des coûts de plus en plus élevés pour maintenir leur activité. D'autre part, l'abonnement mensuel proposé par les plateformes de streaming est souvent moins coûteux que le prix d'une place de cinéma. Qui plus est, ils doivent s'adapter aux nouveaux modes de consommation et de distribution des contenus, qui deviennent moins coûteux et plus confortables avec les services de streaming. Les acteurs traditionnels du monde de la culture, tels que les cinémas et les théâtres, ont souvent du mal à s'adapter à un marché en mutation, surtout depuis l'essor d'Internet et donc des services de streaming vidéo, et même des DVD, à l'époque. Les évolutions rapides des modes de consommation et de distribution des contenus ont conduit à une transformation importante du secteur de la culture. Il semble alors que les cinémas et les théâtres doivent s'adapter à cette mutation et proposer de nouveaux services et contenus pour attirer un public de plus en plus exigeant. Pour finir, l'avènement des services de streaming a également des conséquences culturelles. Celles-ci, qui doivent répondre aux attentes de millions de clients, sont souvent plus enclines à produire des contenus grand public plutôt que des projets plus ambitieux ou expérimentaux. Cette tendance peut conduire à une standardisation de la production de contenu, avec des formules narratives répétitives et une uniformisation des styles visuels. Les plateformes de streaming ont en effet intérêt à produire des contenus qui plaisent à un large public pour maximiser leur retour sur investissement. Cependant, cela peut conduire à un appauvrissement culturel, car les projets moins commerciaux peuvent être relégués au second plan. En outre, le streaming a également un impact sur l'expérience cinématographique et théâtrale en elle-même. En effet, regarder un film ou une pièce de théâtre sur un écran peut altérer l'expérience sensorielle que procure la salle de spectacle. Le visionnage sur écran ne permet pas de bénéficier de la même qualité de son, de la même ambiance ou de la même atmosphère que dans une salle de spectacle. De plus, l'attention du spectateur peut être altérée par les distractions présentes dans son environnement immédiat. Ce phénomène peut conduire à une banalisation de l'expérience cinématographique et théâtrale. Ce phénomène peut conduire à une banalisation de l'expérience cinématographique et théâtrale qui perd son caractère unique et exceptionnel. En conclusion, l'essor des services de streaming a des conséquences importantes sur le cinéma et les théâtres, mais également sur la culture et les modes de consommation des contenus. Il est important que les acteurs du secteur culturel s'adaptent à ces changements pour continuer à offrir des expériences uniques et à produire des contenus ambitieux et originaux. Les plateformes de streaming doivent également être conscientes de leurs responsabilités culturelles et contribuer à la diversité et à l'enrichissement de l'offre culturelle, plutôt que de se contenter de produire des contenus grand public standardisés.
Merci Laura pour ce sujet si intéressant. Maintenant, on va se tourner vers Maya l'abeille avec comme sujet « Pourquoi les abeilles noires disparaissent-elles ?» Les abeilles noires des Cévennes sont une sous-espèce de l'abeille noire, également appelée Apis mellifera mellifera, qui est une espèce endémique de l'ouest de l'Europe. Cette sous-espèce est particulièrement bien adaptée à l'environnement montagneux et forestier des Cévennes. Mais elle est menacée par les pertes d'habitat, l'utilisation intensive des pesticides et l'arrivée de la varroise, un parasite qui affaiblit les colonies. L'introgression peut avoir aussi des conséquences importantes sur la diversité génétique et l'adaptation des populations d'abeilles noires des Cévennes. L'introgression est un processus évolutif qui peut avoir des conséquences importantes sur la diversité génétique et l'adaptation des populations impliquées dans le domaine de la génétique. Le mot « introgression » désigne le transfert de gènes d'une espèce vers l'ensemble des gènes d'une autre espèce. Ce phénomène peut être bénéfique ou néfaste pour les abeilles noires des Cévennes, selon les gènes qui sont introduits dans la population. Par exemple, l'introduction d'un gène de résistance à la varroise pourrait aider à renforcer la résistance de la sous-espèce à ce parasite. Mais l'introduction de gènes d'une autre espèce d'abeille pourrait diluer la diversité génétique de l'abeille noire et affaiblir l'adaptation de cette sous-espèce à son environnement spécifique.
Mon beau tzigane, mon amant, écoute les cloches qui sonnent. Nous nous aimions éperdument, croyant n'être vus de personne. Mais nous étions bien mal cachés. Toutes les cloches à la ronde nous ont vus du haut des clochers et le disent à tout le monde. Demain, Cyprien et Henri, Marie, Ursule et Catherine, la boulangère et son mari, et puis Gertrude, ma cousine, souriront quand je passerai. Je ne saurai plus où me mettre. Tu seras loin, je pleurerai, j'en mourrai peut-être. Les cloches, Guillaume Apollinaire.
Seigneur, quand froid de la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angelus se sont tus, sur la nature des fleuries, faites s'abattre les grands cieux, les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids. Vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés et sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous. Par milliers sur les champs de France, où dormaient des morts d'avant-hier, tournoyez, n'est-ce pas l'hiver ? Pour que chaque passant repense, soit donc le crieur du devoir, ou notre funèbre oiseau noir. Mais, saint du ciel, en haut du chêne, m'a perdu dans le soir charmé, laissez les fauvettes de mai, pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, dans l'arbre d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir. Arthur Rimbaud.
Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la seconde chuchote « Souviens-toi ». Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant dis, je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue, esto memor, mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes, mortelles folâtres, sont des gangues qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide, qui gagne sans tricher, à tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, oh la dernière auberge, où tout te dira, meurs vieux lâche, il est trop tard. L'horloge, Charles Baudelaire.
Mon beau tzigane, mon amant, écoute les cloches qui sonnent, nous nous aimions éperdument, croyant n'être vus de personne. Mais nous étions bien mal cachés, toutes les cloches à la ronde nous ont vus du haut des clochers et le disent à tout le monde. Demain, Cyprien et Henri, Marie, Ursule et Catherine, la boulangère et son mari, et puis Gertrude, ma cousine, souriront quand je passerai, je ne saurai plus où me mettre, tu seras loin, je pleurerai, j'en mourrai peut-être. Les cloches, Guillaume Apollinaire.
Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la seconde chuchote, souviens-toi, rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant dis, je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue, esto memor, mon gosier de métal parle toutes les langues, les minutes, mortelles folâtres, sont des gangues qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide, qui gagne sans tricher, à tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, oh la dernière auberge, où tout te dira, meurs vieux lâche, il est trop tard. L'horloge, Charles Baudelaire.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours sur 48 FM en direct du lycée Émile Pétavin et nous venons d'écouter une petite pause poétique. Pour cette seconde partie d'émission, nous écouterons une pause musicale juste après quelques explications sur le stress post-traumatique. Camille, tu nous en dis un peu plus ?
Avec plaisir. Alors le stress post-traumatique est un stress chronique dû à une mauvaise adaptabilité du corps à cause d'un agent stressant. Le corps subit des modifications physiques, mais aussi des changements structuraux du système nerveux central. Des traitements médicamenteux peuvent soigner ce stress chronique, mais les effets secondaires subis par les patients prouvent que ce moyen n'est pas efficace. Alors des voies non médicamenteuses comme la musicothérapie peuvent s'avérer plus efficientes pour lutter contre le stress post-traumatique. Alors, en quoi la musique peut être un moyen efficace pour lutter contre le stress post-traumatique ?
Le stress chronique est dû à une mauvaise rétroaction négative du cortisol. En effet, le stress produit différentes hormones en partant de l'hypothalamus situé dans le cerveau, sécrétant une hormone appelée le CRH. Cette hormone stimule l'hypophyse qui, elle, sécrète de l'ACTH qui va stimuler, elle, les glandes corticosurrénales situées en dessous des reins, produisant ainsi le cortisol. À la différence de l'adrénaline, le cortisol effectue une rétroaction négative au niveau de l'hypothalamus permettant de réduire le taux de cortisol dans le sang. Mais les personnes malades ne possèdent pas les récepteurs à cortisol dans l'hypothalamus, ce qui provoque ainsi un taux de cortisol constant, provoquant dans le temps une déficience du système immunitaire. Pour lutter contre ça, des traitements médicamenteux comme la benzodiazépine, qui est un antidépresseur, peuvent être prescrits. Mais celui-ci, comme dit auparavant, provoque de graves effets secondaires qui peuvent nuire à la vie du patient ou provoquer des addictions. Alors, des traitements non médicamenteux comme la musicothérapie peuvent être envisagés. La musicothérapie est l'utilisation efficace des éléments musicaux pour promouvoir, maintenir, restaurer la santé mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Des tests cliniques ont prouvé l'efficacité de cette technique. Elle a été réalisée sur des patients souffrant d'anxiété dentaire. On a donc créé deux groupes de 34 patients. Un dit expérimental recevra une musicothérapie alors que l'autre non. Dans les résultats, on retrouve dans le groupe expérimental que le niveau de cortisol passe de 1,2 microgrammes par décilitre à 0,5 microgrammes par décilitre. De plus, pour les autres effets secondaires du stress, tous à part la stimulation de la salive ont baissé. En comparant avec le groupe n'ayant pas reçu de musicothérapie, le niveau de cortisol a augmenté de 1,2 microgrammes par décilitre à 1,3 microgrammes par décilitre. On remarque donc que l'utilisation de la musicothérapie avant traitement dentaire contribue à la baisse significative du cortisol quand la musicothérapie est utilisée avant le traitement dentaire. Donc la musicothérapie est une solution valable pour lutter contre le stress post-traumatique, car d'après des tests cliniques, le niveau de cortisol s'avère bas après une mise en situation stressante. Cette technique pourrait être utilisable pour les victimes d'attentats en travaillant sur les bruits ancrés dans les cerveaux d'armes à feu grâce à la musique et baisser le niveau de cortisol, le vecteur du stress post-traumatique.
Tell me that you love me more. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes arrive at your door. Left you in the deep, but they want some more. Oh, you're changing your heart. Oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Cozy and put the horse before the cart. Those teenage hopes who have tears in their eyes, too scared to run off to one little lie. Oh, 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 you're changing your heart. Oh, oh, you know who you are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Money can't buy you back the love that you had then. 9 or 10, money can't buy you back the love that you had then. Oh, changing your heart. Oh, you know who you are. Oh, you're changing your heart.
Retour en direct du lycée Émile Pétavin pour cette dernière partie d'émission. Nous retrouvons Madame Borel pour son Fast and Curious, juste après Lana qui va nous parler du tourisme et du patrimoine. À tout à l'heure.
Merci Sacha. Bonsoir tout le monde. Le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui suppose des mouvements de personnes vers des pays ou des lieux situés en dehors de leur environnement habituel. Aujourd'hui, ce dernier est un enjeu mondial crucial qui entretient des liens avec le patrimoine, qu'il soit culturel, naturel, matériel ou immatériel. Le patrimoine désigne, à l'échelle nationale ou internationale, un ensemble de biens ayant une valeur singulière et qui doit être transmis aux générations futures. Il constitue une mémoire des sociétés passées et présentes. Dès lors, est-il possible de concilier tourisme et patrimoine ? En effet, si ces derniers peuvent être bénéfiques l'un pour l'autre, plusieurs exemples prouvent que le tourisme peut nuire à la préservation du patrimoine, même si des solutions existent pour les concilier au maximum. Le tourisme est un vecteur majeur de croissance mondiale, agit comme un moteur de développement social et économique, génère des emplois et contribue au maintien des traditions et des savoir-faire. En cela, il agit en faveur de la préservation du patrimoine. Venise, par exemple, est classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, ce qui lui donne une valeur exceptionnelle mettant en avant ses atouts culturels et touristiques. Sa forte attraction touristique favorise également l'économie du pays, d'autant plus qu'en Italie, le tourisme représente à lui seul 13% du PIB. De plus, selon Olivier Lazzarotti, géographe français, les lieux les plus fréquentés sont aussi, dans la très grande majorité des cas, les mieux entretenus s'ils ne sont les mieux préservés. La destruction, ou simplement l'oubli de lieux du passé, est bien plus fréquente faute de touristes qu'à cause des touristes. Il existe ainsi un lien entre patrimoine, mobilité et pratiques culturelles qui contribue à faire vivre le passé singulier des lieux. Cependant, le tourisme engendre des conséquences néfastes pour la préservation du patrimoine. Si l'on revient sur l'exemple vénitien, on remarque une muséification du paysage puisque les commerces locaux diminuent pour laisser place à des boutiques de souvenirs, tout comme la population qui comptait 100 000 habitants il y a 40 ans pour en retrouver aujourd'hui moitié moins. En résumé, ses atouts sont seulement culturels et sa seule fonction devient la fonction touristique. Depuis les années 1990, avec le développement du tourisme de masse et des croisières, la ville connaît une mise en tourisme excessive qui engendre des risques environnementaux tels que la pollution, le phénomène d'aqua alta, c'est-à-dire la montée des eaux, mais aussi des accidents comme celui du 2 juin 2019 où un navire de croisière a percuté un port, favorisant une prise de conscience quant aux impacts du tourisme de masse. Ainsi, se pose la question d'une classification comme patrimoine menacé, c'est-à-dire la volonté d'assurer la restauration, l'entretien, la promotion ou la transmission des édifices patrimoniaux protégés et qui sont menacés par des conflits armés, des catastrophes naturelles ou bien par le développement incontrôlé du tourisme. Nous pouvons également prendre l'exemple du Machu Picchu. Le site, classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, connaît une forte croissance touristique. De nombreuses dégradations ont été relevées sur l'environnement, telles que des phénomènes d'érosion, des glissements de terrain ou encore des effondrements de murs. Ces dernières sont de plus en plus fréquentes. Par exemple, en janvier 2010, près de 3500 personnes se sont retrouvées piégées sur le site par des pluies diluviennes et ont dû être évacuées par hélicoptère. Le tourisme de masse est ainsi dangereux pour les lieux, mais également pour les touristes. Outre les phénomènes naturels, le gouvernement péruvien a entamé en 2019 la construction d'un nouvel aéroport international près du site. L'UNESCO menace alors de classer le Machu Picchu comme patrimoine mondial en péril. Aujourd'hui, de nouvelles solutions visant à favoriser les relations entre tourisme et patrimoine se diffusent, comme le développement du tourisme durable. Ce dernier participe à la vitalité et à la protection des territoires puisqu'il opte pour un tourisme qualitatif plutôt que quantitatif pour préserver le patrimoine tout en offrant une meilleure expérience de voyage. Il est donc essentiel de gérer les flux touristiques, ce qui passe par une meilleure orientation et de meilleurs conseils pour les visiteurs en diffusant la fréquentation dans la durée, les saisons et les espaces, qu'ils soient accessibles à la visite ou bien interdits dans les zones protégées. Pour en revenir à l'exemple de Venise, des itinéraires spécifiques ont été mis en place pour que les flux de touristes puissent se concilier avec le quotidien des Vénitiens. De même, Le projet Moïse a été initié en 2003 pour limiter le phénomène d'Aqua Alta. Cependant, dans certains cas, la meilleure manière de préserver un patrimoine des impacts touristiques s'avère être la classification de sites en péril, en stoppant tout type d'activité liée au tourisme pour assurer la durabilité d'un lieu jugé exceptionnel. Allier tourisme et patrimoine représente donc de forts enjeux économiques et sociaux et permet d'assurer la préservation du patrimoine en enracinant l'idée de mémoire par une démocratisation du patrimoine et en favorisant son accessibilité. Évoquer les fragilités patrimoniales liées au tourisme est cependant crucial, puisqu'entre muséification des paysages, mise en tourisme et tourisme de masse, apparaissent de nombreux impacts sur l'environnement et les populations. On assiste toutefois à une prise de conscience croissante des risques liés à leur conciliation et les sociétés développent des moyens pour limiter ces dégradations patrimoniales, telles que la diffusion du tourisme durable ou bien, dans les cas les plus extrêmes, la classification des patrimoines comme sites en péril.
Quand j'étais au lycée, c'est de là que partaient les courses.
Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious.
Bonjour, je suis Madame Borel, Anne, professeure d'anglais au lycée Émile Peyterin.
Ami, je suis cow-boy.
Cow-boy.
Expression orale ou expression écrite?
Expression orale.
Past perfect ou present perfect?
Present perfect.
Thé ou café?
Café.
Fiction ou réalité?
Fiction.
Lundi ou vendredi?
Vendredi.
Instagram ou Facebook?
Insta.
Boulot ou dodo?
Dodo.
Bureau rangé ou désorganisé?
Désorganisé.
Agir ou penser?
Penser.
Love is in the Beam avant ou après sa destruction?
Après.
Norman Rockwell ou Banksy?
Banksy.
Chien ou chat?
Chat.
Elisabeth II ou Lady Di?
Ah, Lady Di.
Basket ou talon?
Talon.
Film ou série?
Film.
Pronote ou Moodle?
Moodle?
The Guardian ou The Times?
The Times.
Rouler à gauche ou à droite?
À gauche en Angleterre.
Et pour finir, euro ou livre?
Euro.
Merci à Madame Borel pour sa participation. Merci à toi Lana et désormais à vous, Malo et Joseph, de nous présenter votre chronique sur le tricking.
Salut, comment ça va tout le monde? Moi ça va super. Avec Joseph, nous allons vous parler du trix. Moi comme vous, je n'ai jamais entendu parler de ce sport. Je savais même pas qu'il existait du coup. Du coup, on va laisser Joseph nous en parler.
Salut. Bon, pour faire simple, c'est un mélange de pirouette et de coups de pied. Il y a de la gym, du breakdance, qui est de la sorte de danse. Mais il prend le plus de sources dans le taekwondo, qui est un art martial basé exclusivement sur les coups de pied. C'est un sport vraiment cool à pratiquer puisque chacun a son propre style et peut s'épanouir à sa façon.
Ah, et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du week-end du 16 au 19 décembre où il y a eu le Out Tricking, le championnat du monde de tricking. Bon, cela remonte un peu maintenant.
Et t'as bien aimé?
Sincèrement?
Sincèrement.
Sincèrement, c'était trop fou. Une ambiance de dingue, l'événement était hyper bien organisé, le planning était fait de telle sorte à ce que l'on n'en s'ennuie jamais. Nous pouvions nous-mêmes en faire sur les praticables et le battle qui a eu lieu le dimanche soir était trop cool.
C'est quoi ça?
Le planning?
Mais non, une battle.
Ah, c'est comme ça qu'on fait la compétition. C'est comme au breakdance. Chacun des deux opposants fait deux ou trois passages. Et celui qui fait la meilleure combinaison passe au prochain tour. Cette année encore, c'est Chosey pour la troisième fois qui a gagné le championnat et il n'a que 18 ans.
Le champion du monde a 18 ans? Il est bizarre ton sport.
Oui, bah c'est un sport qui force beaucoup sur le corps et on perd vite du niveau où on stagne avec de l'âge.
Et le but de cet événement, c'était quoi?
L'objectif de l'événement était de rassembler des pratiquants du monde entier, de partager des connaissances et des compétences et de créer une communauté dynamique de trixeurs.
Et ce regroupement de trixeurs, comme tu dis, c'était où?
À Amsterdam, au Sport Center.
Ah, et t'es allé à Amsterdam juste pour voir ça?
Oui, ben en plus d'assister à un top événement, j'ai pu visiter les Pays-Bas et en plus la capitale. Et j'y retourne l'année prochaine, si tu veux, je t'y emmènerai.
L'événement a l'air super cool, franchement, si tu me payes, je suis chaud.
Ça va être compliqué.
Bon, ben ça va aller alors. oui, bien sûr, je viendrai. J'ai tellement hâte de venir. Ça me paraît trop cool.
Non, mais vraiment, que ce soit toi ou vous, mes chers auditeurs, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet. Ce sera toujours plus parlant de voir en images.
Ça sera tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés et vive le Trix alors.
L'avenir.
Voilà pour tous nos auditeurs qui ne connaissaient pas ce sport, c'était l'occasion d'en découvrir un peu plus. Pour les amateurs de foot, voilà une chronique qui va vous permettre de voir ce sport d'un autre œil. Pour tous ceux qui pensaient que le foot, ce n'était que courir après un ballon, je vous laisse en compagnie de Wendy qui va vous prouver le contraire.
Merci Sacha et bonsoir à tous. Un État possède trois critères traditionnels pour être défini comme tel. Un territoire, une population, un gouvernement. Depuis bien des décennies, un quatrième critère peut se rajouter, une équipe nationale de football. Le foot, c'est d'abord et avant tout le sport populaire par essence. Rassemblant des milliards d'adhérents et de supporters à travers le monde, le mot football s'entend dans les bouches des habitants de chaque continent. Mais le football n'est-il qu'un sport ? Joué partout et par tous, il incarne la mondialisation, plus encore que la démocratie, l'économie de marché ou même Internet. Ce n'est plus seulement une pratique collective de jeunes de quartier sur des terrains vagues. Le football possède son propre gouvernement, la FIFA, et a des incidences au niveau social, politique, culturel ou même économique. Le foot renforce les identités, alors que la mondialisation les dissout. Les équipes de foot participent de l'identité des peuples. Elles mobilisent et démontrent une appartenance à une identité collective, à l'instar des quatre équipes nationales britanniques. Il existe d'ailleurs plus d'équipes de football que d'États reconnus par le droit international. Les supporters expriment un sentiment commun d'appartenance, mais aussi des antagonismes locaux, sociaux et religieux, et s'affirment par rapport à l'autre. Pensons aux rivalités entre clubs. Rangers contre Celtic à Glasgow, ou bien évidemment le classique entre le PSG et l'OM. Au cœur des processus d'accession à l'indépendance politique, le football et les joueurs se font l'incarnation de nos aspirations, de nos valeurs et de nos idées. En mai 1958, le Front de Libération Nationale Algérien met sur pied une équipe, les 11 de l'indépendance. Des joueurs français renoncent à une carrière prometteuse chez les Bleus, comme Moustapha Zitouni, afin de porter les clubs les couleurs du futur État algérien à travers le monde. Ces ambassadeurs en crampons disputent 80 matchs amicaux internationaux entre 1958 et 1962, au cours desquels l'hymne algérien retentit avant le début de chaque rencontre. Pourtant, l'amour du ballon rond, aussi fort soit-il, ne suffit pas à réunifier les deux Corées, pas plus qu'à résoudre le conflit israélo-palestinien. Il peut tout de même faciliter un processus décidé par la politique en lui fournissant un environnement favorable. Le football se fait le porte-drapeau d'un pays et symbolise l'exacerbation des passions nationales. À la fois reflet des conflits interétatiques et traduction d'une réconciliation internationale, le foot est en plein cœur des enjeux identitaires. Ces mêmes enjeux sont largement dévoilés lors de la Coupe du Monde. C'est LE produit phare du football. Depuis la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, le mondial sort de son aire géographique classique pour conquérir de nouveaux marchés, et notamment le marché asiatique et moyen-oriental, avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar. À cette occasion, le football représente un enjeu de soft power fort pour les États organisateurs qui doivent démontrer leur capacité de préparation et d'accueil d'un événement majeur à l'échelle internationale. La Coupe du Monde constitue un moyen de vendre, voire d'améliorer l'image du pays au monde, tout en permettant un coup d'accélérateur des investissements étrangers et du tourisme. Instrument de puissance et de propagande, la Coupe du Monde 2022 au Qatar est un succès relatif. Ce petit et richissime émirat gazé du Golfe Persique mène depuis plus de 10 ans une très active diplomatie du sport, sans compter les milliards investis dans le rachat du Paris Saint-Germain avec QSI. La Coupe du Monde organisée par Doha représente le point d'orgue de cette stratégie de soft power, lui permettant de nouer des alliances internationales, mais surtout de peser face à deux États voisins, lui reprochant ses liens avec l'Iran et les frères musulmans, l'Arabie Saoudite, qui a racheté Newcastle, et les Émirats Arabes Unis, propriétaires de Manchester City. Mais l'accueil de cet événement international a nécessité une politique accentuée de greenwashing et la construction de 8 stades géants climatisés, durant laquelle des millions de travailleurs migrants ont été exploités et dont des millions sont morts ces 10 dernières années. Cela a terni l'image du pays moderne et respectueux des droits humains que voulait donner Doha et a servi à la justification d'appels au boycott de certaines personnalités et institutions. Les stades de football deviennent aussi parfois des tribunes politiques. Le foot est en fait le reflet de la société, il souffre de ses maux, avec le poids de l'argent, la violence, le racisme et même les inégalités. Il peut œuvrer à sa mesure à la provocation ou même à l'apaisement de violences. C'est un instrument politique d'autant plus utile qu'il apparaît a priori futile. Les stades de football offrent à l'extrême droite une tribune où elle peut développer un discours de haine et de discrimination sociale. Prenons l'exemple des hooligans, ces supposés fans de football utilisant la violence dans les tribunes. Les Headhunters du club londonien Chelsea ont fait trembler l'Europe entière dès les années 60, en revendiquant leur idéologie néo-nazie et leur lien avec le groupe Combat 18. Ces comportements ultra-violents entraînent l'adoption de normes, comme l'interruption de matchs en cas de mauvaise conduite de ce genre. C'est le cas lors du match de Champions League opposant le PSG de Tuchel à Başakşehir de Buruk en 2020. Alors que le quatrième arbitre est accusé de racisme envers l'entraîneur adjoint du club turc, les joueurs des deux équipes quittent le terrain sur une décision commune. L'arbitre principal interrompt ainsi le match à la 23e minute, reportant de fait le match avec de nouveaux arbitres. Mais le football est aussi une école d'amitié et de fraternité, de pluralisme et de tolérance. C'est un irremplaçable passeur pour appréhender le monde et sa diversité et lutter contre les fléaux de ce monde. Véritable vaccin contre l'ethnocentrisme, le football est une vitrine du combat contre le racisme, exacerbé notamment après le meurtre de George Floyd en mai 2020, après quoi les joueurs posent un genou à terre avant le coup de sifflet annonçant le début de la rencontre. Ce symbole dénonce les violences policières faites aux Noirs. De nombreux joueurs, comme l'américaine Megan Rapinoe, se battent aussi pour l'égalité des salaires entre footballeurs et footballeuses qui présentent des différences abyssales. Au-delà des enjeux sportifs, de l'engouement des supporters et des intérêts économiques, le foot revêt une triple dimension géopolitique. À la fois arme de soft power pour dirigeants, loisirs cathartiques des peuples et scène politique, le foot n'est ainsi pas seulement 22 bonhommes qui courent après un ballon.
Merci Wendy, nouvelle pause poétique avant de reprendre l'antenne avec Néo et les affres de la célébrité.
L'avenir. Soulevons la paille, regardons la neige, écrivons des lettres, attendons des ordres, fumons la pipe en songeant à l'amour. Les gabillons sont là, regardons la rose, la fontaine n'a pas tari, pas plus que l'or de la paille ne s'éternit. Regardons l'abeille et ne songeons pas à l'avenir. Regardons nos mains qui sont la neige, la rose et l'abeille, ainsi que l'avenir. Apollinaire.
Je t'aime toi-même. L'orateur prend la parole et les éléments se déchaînent. Dans la blancheur du crépuscule, on entend la page d'une histoire qui se déchire. C'est la muse magicienne et le mage musicien qui se séparent. Ça ressemble à une fin, mais ce n'est qu'un faux départ. Leur histoire, c'est l'histoire d'un amour qui frappe comme la foudre. C'est un poème écrit sur une feuille en lambeaux qu'ils essaient de recoudre. Quand il lui dit « je t'aime », elle répond « toi-même ». Souleymane Diamanka.
Tam Tam 1. Amen le fleuve de sang de terre, amen le sang de soleil brisé, amen le sang d'un sang de clou de soleil, amen le sang du suicide et des bêtes à feu, amen le sang de cendre, le sang de sel, le sang des sangs d'amour, amen le sang incendié d'oiseaux, feu, hérons et faucons, montés et brûlés. Benjamin Perret.
Dédicace à Guillaume Apollinaire. La porte. La porte de l'hôtel sourit terriblement. Qu'est-ce que cela peut me faire, oh ma maman, d'être cet employé pour qui seul rien n'existe. Pimus, coupe la langue dans les profondes eaux tristes. Ange frais, débarqué à Marseille hier matin, j'entends mourir et mourir. Un chant lointain, humble, comme je suis, qui je suis, rien qui vaille. Enfin, je t'ai tout donné, ce que j'avais travaillé.
J'ai couru après les horizons sur chaque page, avec l'énergie des anciens poussés par le jazz, pour ne pas avoir à jouer à cache-cache avec le diable. Les poètes se cachent pour écrire. Ce n'est pas une légende, mon ami, regarde-nous. Toi et moi, c'est l'écriture qui nous lie. C'est dans la solitude qu'on apprend la convivialité, et tant pis pour celui qui le nie. Le feu passe au verre et l'oralité passe par nous. Le verbe est une clé indispensable. Dehors, on nous demande des mots de passe-partout. Les poètes se cachent pour écrire. Ce n'est pas une légende, mon frère, regarde-nous. On a traversé des rivières debout à la nage. On a dormi à jeun dans la neige. Et on est encore debout. Souleymane Diamanka.
Prendre la parole et prendre racine dans le jardin du silence, là où les bruits sourds qui donnent des frissons s'écrasent. Prendre la parole et devenir un de ces grands arbres dont les fruits sont des phrases. Prendre la parole pour voir les morts danser en habillant la beauté. Prendre la parole au nom de ceux qui l'ont ôté. Prendre la parole au nom des néons de la nuit. Prendre la parole au nom du vieux puits plein d'eau de pluie. Prendre la parole au nom des bouquets de fleurs et des bouquins dans le feu. Prendre la parole au nom de ces couplets de pleurs et des coups pleins de cœur. Prendre la parole au nom du peuple oiseau et de sa jolie chorale. Souleymane Diamanka.
Première soirée. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets. Aux vitres jetaient leurs feuillets malignement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, minue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnait d'aise ses petits pieds, si fins, si fin. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier, papillonné dans son sourire, et sur son sein, mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un doux rire brutal, qui s'égrenait au clair tri, un joli rire de cristal. Arthur Rimbaud.
Seconde nature, la solitude, l'absence, et ses coups de lumière et ses balances, n'avoir rien vu, rien compris. La solitude, le silence, plus émouvant au crépuscule de la peur que le premier contact des larmes. L'ignorance, l'innocence, la plus cachée, la plus vivante, qui met la mort au monde. Paul Éluard.
Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6h du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête d'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec une sauce vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange, et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents, doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde, et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau se répéter depuis 3 jours, cela ne peut pas durer, ça dure 3 jours, 3 nuits, sans manger, et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégées par la crainte, que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud, l'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots, sardines à manger, œuf dur, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crime arrosé sang, un homme très estimé dans son quartier, a été égorgé en plein jour, l'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0,70 francs de tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Grasse matinée, Jacques Prévert.
Bonsoir à tous, c'est Néo et je vais à présent vous parler des affres de la célébrité. La célébrité ne vous comble pas, elle vous réchauffe un peu, mais cette chaleur est temporaire, a déclaré un jour une femme emblématique connue sous le nom de Marilyn Monroe. Ici, elle explique que la célébrité n'est pas seulement quelque chose de bon avec seulement des qualités. Avec cette citation, elle illustre parfaitement la manière dont elle a vécu sa célébrité. En réalité, il s'agit d'un équilibre et d'un contrôle de soi et de son image. Il faut savoir comment se comporter en public et dans sa vie privée, et c'est quelque chose de très compliqué à gérer lorsque l'on est célèbre. Dès lors, comment les célébrités vivent-elles leur notoriété ? En réalité, la célébrité peut être subie par certains, car elle implique une grande charge mentale, parfois compliquée à gérer. Cependant, elle peut être transcendée par d'autres, même si elle implique de faire de lourds sacrifices. Qu'elles gèrent ou pas leur notoriété, les célébrités incarnent néanmoins les tensions sociales, elles les cristallisent et mettent des coups de projecteur dessus. La notoriété des célébrités est une illusion. Elle est paradoxale car elle implique autant d'aspects négatifs que positifs. D'un côté, elle apporte un confort financier certain, bien souvent envié de tous. De l'autre, les contraintes et sacrifices associés sont très nombreux. Il faut être capable d'y faire face. Certaines célébrités n'ont pas la force mentale nécessaire et nombre d'entre elles ont connu une fin tragique. Le cas de Britney Spears peut l'illustrer. La chanteuse est passée d'un harcèlement par les paparazzi à sa mise sous tutelle en 2008 par son père. Elle a totalement perdu le contrôle de sa vie, autant personnelle que professionnelle. Amy Winehouse, également, a sombré dans la spirale infernale de la célébrité. Ses addictions aux drogues et à l'alcool, causées par de nombreux facteurs et notamment sa notoriété fulgurante, l'ont amené un jour à payer la rançon de la gloire à 27 ans. C'est ainsi à cet âge-là que la chanteuse a pu intégrer le Club 27, regroupant des personnalités célèbres, principalement des musiciens, décédés à cet âge. Ce mythe a été romancé et c'est un problème, car la mort prématurée de ces musiciens n'est pas respectée, mais au contraire, elle est suscitée de la fascination morbide du public. En ce sens, la célébrité est plus un écueil qu'un bienfait. La célébrité réussit cependant à certains, qui arrivent à la transcender, même si elle implique de faire de lourds sacrifices pour arriver à cela. Malgré la difficulté évoquée précédemment pour vivre avec, il existe des célébrités qui ont réussi à la tourner à leur avantage ou au service d'une cause davantage collective. Elles ont en effet pu l'utiliser pour transmettre des messages humanitaires ou sociaux. L'actrice Angelina Jolie, par exemple, utilise depuis plusieurs années sa notoriété pour la bonne cause, en sensibilisant les femmes au dépistage du cancer du sein. Lady Diana, également, a mis à profit sa notoriété pour s'engager publiquement dans la lutte contre le sida, en serrant la main d'un patient malade à l'époque où tout le monde croyait la maladie transmissible. Enfin, certains acteurs et actrices en profitent également pour mettre en avant la communauté LGBTQIA+, tels que Hunter Schaefer ou encore Elliot Page, qui a eu recours à une mastectomie au cours de sa transition de genre afin de rentrer dans les critères masculins de la société. Cette affirmation de leur identité au travers de leur notoriété a permis de mettre en lumière certains aspects de la communauté LGBTQIA+. Ainsi, la célébrité, en étant utilisée, peut devenir un vecteur majeur pour l'inclusion et la sensibilisation. Nonobstant, la notoriété peut vite entraîner des abus et des excès de la part des célébrités, cristallisant ainsi des problèmes de société comme la lutte contre le réchauffement climatique, le harcèlement, le respect des droits de l'homme. Leur aisance financière leur permet notamment de dépenser en quantité, d'avoir des pratiques qui participent au réchauffement climatique, d'encourager la surconsommation, ou encore de faire la promotion de critères de beauté stéréotypés et consuméristes. C'est entre autres le cas des sœurs Kardashian-Jenner, qui commercialisent chacune une marque de cosmétiques. Elles encouragent également leurs followers à entrer dans leurs critères de beauté très fermés, et deux d'entre elles, Kylie et Kendall Jenner, ont également participé au harcèlement de Selena Gomez avec leur amie Hailey Bieber. En outre, Kim Kardashian a, en pleine période de sécheresse, rempli sa piscine d'eau à plusieurs reprises. Parmi les célébrités qui abusent de leur notoriété à des fins personnelles, on peut également citer Taylor Swift qui avait pour habitude d'énormément utiliser son jet privé, 170 fois sur 200 jours, ce qui a émis 8,293 tonnes de CO2. Beyoncé, déjà connue pour avoir milité en faveur des libertés pour les personnes de couleur, a quant à elle fait un concert à Dubaï pour l'inauguration d'un hôtel, alors que c'est une ville où les droits des membres de la communauté LGBTQIA+ sont bafoués et où le racisme est omniprésent. Ainsi, même si la notoriété peut servir à mettre en avant des minorités, elle peut également servir au profit personnel de certains et cristalliser les tensions sur des problèmes de société. La question était donc de savoir comment les célébrités arrivaient à vivre avec leur notoriété. Cette notoriété, subie par certains, peut aussi permettre à d'autres de véhiculer des valeurs positives. Elle peut enfin, en étant mise au service d'intérêts personnels, illustrer des problèmes au cœur des préoccupations actuelles. Elle ouvre alors la porte à un clivage entre ceux pour qui, même dans leur excès, les célébrités restent des modèles à suivre, et ceux qui vont utiliser les débordements de ces dernières pour les critiquer et essayer de diffuser un autre modèle de société.
Nous voilà arrivés au terme de cette émission, nous laissons le mot de la fin à Lilian qui va nous parler de la ressourcerie La Récup.
Pour m'aider dans ce reportage, j'ai interviewé Monsieur Hugo Terrisson, conseiller technique et pédagogique à La Récup. La Récup est une ressourcerie agréée et un atelier de chantier d'insertion dont le projet a été créé en 2017. Elle se trouvait alors sur le Cosdoge. Elle se situe maintenant au 11 raccourci de la Boulaine, au-dessus de CFA de Mende, depuis le 14 juin 2022, après l'acquisition de ses nouveaux locaux en raison de la croissance de son activité. Lors de l'interview de Monsieur Hugo Terrisson, j'ai appris que La Récup compte 13 salariés en réinsertion et 4 salariés, dont lui-même, en permanence. Les salariés permanents comprennent la directrice de l'association, Madame Élodie Guilloton, et le conseiller technique et pédagogique, Monsieur Hugo Terrisson, et d'autres. Interviennent également des travailleurs sociaux extérieurs à la structure. Les objectifs de La Récup vis-à-vis de ses employés sont simples. Les former à leur prochain travail, en milieu ordinaire, tout en proposant des produits d'occasion contrôlés et remis en état. Les personnes recrutées par l'association sont au préalable suivies par un conseiller en réinsertion extérieur à l'association avec qui il définit un projet de futur emploi. Ils déterminent ensemble les tâches qui seront attribuées à l'employé par l'association en fonction du projet de réinsertion défini. Plus globalement, la fonction du conseiller en réinsertion est d'aider la personne suivie à trouver des informations, des formations, trouver un emploi et de l'aider dans ses démarches de la vie courante, logement, demande d'aide publique, soins et autres. Lorsque les objectifs sont déterminés avec l'aide du conseiller, l'association signe un contrat avec l'employé. Ainsi, il est rémunéré, a une couverture sociale, etc. En résumé, il a un statut officiel de salarié. La Récup peut employer tous les profils de personnes éloignées de l'emploi. Cela peut être causé par un chômage de longue durée, tout comme une personne qui sort de longue dépression. Mais leurs objectifs ne s'étendent pas seulement aux employés. En effet, il y a une dimension également sociale, écologique et économique. L'entreprise sensibilise le grand public à la protection de l'environnement, plus particulièrement à la réduction des déchets, et propose des ateliers créatifs collaboratifs ouverts à toutes et à tous. Les dons effectués à La Récup permettent aux acheteurs de bénéficier de certains produits moins chers que leur prix d'origine, tout en restant une ressourcerie de proximité. Cela réduit les inégalités et favorise l'entraide, car des personnes de classe défavorisées peuvent se permettre de se fournir en matériel de bonne qualité et à moindre coût. De plus, cette association favorise l'économie circulaire. En effet, les ressources et les biens ne sont pas gaspillés et cela limite l'achat de produits neufs. On peut aussi voir la dimension écologique de la ressourcerie. La matière première est économisée, il y a moins de pollution pour les produits créés, construction d'usines, consommation électrique, etc. Mais aussi, moins de pollution pour le transport des produits, car ils sont collectés localement. À l'heure actuelle, il n'y a aucun gros projet de prévu pour les associations, car elles sortent de l'acquisition de ces nouveaux locaux et n'envisagent pas d'autres actions majeures pour le moment. Pour autant, elles proposent des activités à ses salariés, comme des sorties culturelles au théâtre. Certaines formations peuvent être prises en charge financièrement par l'association, comme les formations de permis de conduire, pour les chauffeurs de poids lourds notamment. Voilà ici là un peu d'humanisme dans un monde où tout est prétexte au rejet. Un grand merci à Monsieur Hugo Terrisson, malheureusement absent, d'avoir accepté d'être interrogé et de nous avoir éclairci sur l'activité de son association.
Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. C'était le deuxième direct de la promo 2022-2023 de Tech News. Nous sommes ravis de vous avoir accompagnés tout au long de cette soirée. Merci d'avoir été présents. Bonne fin de soirée à tous et à bientôt. We'll be right back.